Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de Parcours est le journaliste Elias Masbounji. Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous, Elias Masbounji ?
Je suis journaliste professionnel depuis 1965. J'ai fait mes premières armes dans un journal qui s'appelait Le Soir. J'étais étudiant en Sciences Po et un jour, le patron de ce journal m'a dit « Laisse tomber et viens travailler avec nous ». Parce qu'il me voyait taper à la machine avec deux doigts rapidement. Et je donnais les résultats de sport, puisque j'étais basketteur. Je donnais les résultats des matchs de basket. Et il m'a dit, laisse tomber le système confessionnel au Liban. Tu es quoi? Tu es maronite? J'ai dit non, je suis syriaque orthodoxe. Il m'a dit, tu ne seras jamais ambassadeur. Tout juste deuxième secrétaire, troisième secrétaire. Laisse tomber Sciences Po et viens travailler avec nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était en 1965.
Alors, dans quelle région du Liban êtes-vous né, Elias Masbounji ?
Je suis né à Beyrouth, mais je suis né de parents immigrés de Turquie, des Syriaques, qui ont été forcés à l'exil en même temps que les Arméniens, mais pour d'autres raisons, disons.
Lesquelles ?
C'était plutôt une peur, la peur de subir le sort des Arméniens. Et avec la crainte, la crainte de voir leur tour venir après les Arméniens. Et il y a des minorités qu'on appelle des Kurdes dans l'est de la Turquie qui s'arrangeaient pour multiplier cette peur, c'est-à-dire pour faire exagérer la peur en disant « voilà, votre tour va arriver », etc. Et c'était un départ forcé, sous la peur, mais ce n'était pas l'image de des foules qu'on envoyait sur les routes mourir comme ça, non, pas du tout. Mes parents sont venus, ils ont organisé leur départ, ils sont venus avec un peu d'argent, c'était les livres d'or à l'époque qu'on mettait, les enfants, ceinturer les enfants avec des livres d'or. Et donc ils sont arrivés au Liban et d'autres sont partis en Irak et d'autres en Syrie. Donc, nous sommes une famille divisée entre Alep, Bagdad et Beyrouth, jusqu'à maintenant. On s'est intégré parce que le Liban a ouvert des portes aux Syriaques et aux Arméniens également. Notre principale difficulté était de nous intégrer rapidement. Et nous avons, je pense, réussi. Pour les Libanais, Syriaque, c'était quelque chose. C'était arménien, non pas arménien, mais chrétien. Et pourquoi vous avez quitté la Turquie, etc. Il fallait à chaque fois, non pas expliquer, mais dire que voilà, on est Libanais, mais on n'est pas de tel ou tel village. Parce que les Libanais, dans les grandes villes, sont toujours originaires d'un village, c'est-à-dire. Il y a très peu de Beyrouthains de souche. Il y a des Beyrouthains qui sont nés depuis... Mais la plupart des Libanais habitent à Beyrouth, mais ils sont de tel ou tel village. Nous, on n'avait pas cet avantage. On disait, oui, nos parents sont venus de Turquie.
Et qu'est-ce que ça change pour un enfant, justement, au Liban, dans ces années-là de dire « je ne viens pas d'un village libanais » contrairement à la majorité des Libanais.
On peut avoir deux réactions. La première, c'est de se renfermer, de fréquenter que des Arméniens, des gens un peu comme nous. Et la deuxième raison, c'est de relever le défi et de dire « moi, je vais être mieux ». Et heureusement que dans ma famille, on a pris cette deuxième voie. J'ai une sœur qui a fait une belle carrière dans la magistrature et une autre sœur qui était professeure de sport. Mon frère, architecte, qui a fait une belle carrière à Sofia Antipolis. Et moi, modestement, dans le domaine du journalisme. Mais si c'était à refaire, comme on dit, je choisirais ce métier-là. Et depuis 65, vous pensez bien que j'ai vécu des périodes différentes et enrichissantes, certainement.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être syriaque orthodoxe d'un point de vue religieux ? Quelles sont les différences avec les autres confessions chrétiennes
nous,
au Liban ?
Nous sommes les premiers chrétiens, c'est-à-dire le Christ a parlé l'araméen. Et dans notre famille, pas plus loin qu'il y a deux générations, trois générations, on parlait l'araméen à la maison. Donc c'est une preuve et un gage et d'avoir gardé cette langue qu'on dit morte, mais en réalité c'est un peu comme les anciens grecs, comme le latin, et c'est une langue qu'on ne parle plus, mais on l'écrit, et les érudits en langue syriaque se sont distingués depuis le début de la chrétienté par les traductions. Et en traduisant des œuvres diverses du latin et du grec, ils ont apporté au monde arabe, et aux musulmans en particulier, une culture qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. C'est grâce aux syriaques, les érudits et les spécialistes, c'est grâce aux syriaques que le monde arabe a connu la civilisation gréco-romaine, comme on l'appelle.
Alors, vous êtes journaliste francophone, vous parlez bien évidemment l'arabe. Elias Masbounji, est-ce que vous pouvez nous parler de votre scolarité ?
Oui, j'ai fait mes études secondaires dans un collège de prêtres, de curés maronites, qui avait la particularité d'avoir d'excellents professeurs arabes, ce qui est curieux parce que la langue française était presque marginale dans ce collège. Il fallait bien connaître l'arabe. Et le français était non pas marginal, mais secondaire. Ce n'était pas important de connaître bien le français. Alors quand je dis que j'ai fait mes premières études au Collège de la Sagesse, on a tendance à rigoler en disant mais il y a quand même je suis probablement l'exception. C'est peut-être parce que en apprenant l'arabe et le français, on apprend le français plus vite. C'est plus facile, la grammaire, vous avez, quand on compare la grammaire arabe et la grammaire française, c'est un casse-tête, la grammaire arabe. Et aujourd'hui, il y a très peu, pas beaucoup de gens qui écrivent et qui parlent l'arabe sans erreur, c'est-à-dire l'arabe pur. Ils l'écrivent, oui, mais quand ils s'expriment en arabe littéraire, à part quelques personnes connues, on ne peut pas dire que c'est parfait à cause de la ponctuation, à cause des accents. Et les accents sont pas des, c'est des accents, les voyelles sont des accents arabes et la grammaire est très compliquée.
À quoi ressemblait le Liban de votre enfance, Elias Masbounji ?
Le Liban de mon enfance était vraiment une période dominée par, au niveau des activités, dominée par le sport. J'ai toujours été attiré par le sport et ça vous occupe l'esprit, ça occupe votre temps et vous n'avez plus les tendances à aller à gauche et à droite, comme on dit en bon français. À côté de vos études, ça remplit votre vie. Et plus tard, j'ai fait du basket et d'autres sports. Tous les sports qu'on peut pratiquer au Liban, le ski, la natation, tout ce qu'on peut pratiquer au Liban. Mais c'est le basket qui m'a attiré. Et puis pendant des années, j'étais membre de la sélection scolaire libanaise. Et puis c'est un peu dans la famille, puisque ma sœur aînée basketteuse, devenue ensuite professeure de sport. Mais quand elle était basketteuse, elle était capitaine de l'équipe nationale. On parle des années 50 et c'était vraiment quelque chose qu'on connaît, une équipe nationale féminine de basket, c'était quelque chose de très important.
Les liens avec la France étaient très forts dans les années 50, les années 60.
Oui, je peux dire que la francophonie par rapport à ces années-là est en régression aujourd'hui. Et non pas parce que la langue anglaise avance. On a tendance à vous dire que l'anglais a supplanté le français ou qu'il va supplanter le français. Non. Mais c'est parce que les Libanais se sont attachés à la langue française et ça date du mandat, de l'époque du mandat. Et ils ont été certainement influencés par les auteurs connus. Et l'histoire de France, pour vous donner une idée, dans les écoles chrétiennes, on apprenait l'histoire de France. On connaissait l'histoire de France, toutes les périodes de l'histoire. Quand on vivait avec les grands moments de l'histoire de France, etc. Mais l'histoire du Liban était un peu problématique parce qu'il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui un livre d'histoire commun qu'on apprend dans les écoles. Donc, chez les musulmans, on apprend l'histoire du Liban d'une autre façon. Les livres d'histoire sont différents. Et donc, nous avons été attirés par les auteurs et par l'histoire de France. Surtout.
Il y avait des échanges, je dirais, culturels avec la France. Il y avait des artistes français qui venaient, des écrivains français. Dans votre famille, est-ce qu'on venait en France ?
Oui. C'est-à-dire, les liens se sont tissés par la culture, l'éducation. C'était pas tellement les auteurs qui venaient au Liban, quoique il y a eu des Renan est venu au Liban pendant des années, il s'est installé, il avait été au Liban, Lamartine, etc. Mais ce n'était pas ça. C'était cet attachement à la langue, à la culture, par défaut, si vous voulez, en n'ayant pas connaissance, n'ayant pas appris l'histoire et la culture. Je parle des écoles chrétiennes et là, ces écoles assument une certaine responsabilité, sauf ces rares écoles qui étaient tenues par les curés maronites, qui avaient la langue française et l'histoire et la culture arabe au même niveau que la langue française.
Est-ce que le Liban était vraiment la Suisse du Moyen-Orient, comme on le répète
oui,
souvent ?
Oui et non. Oui, parce que c'était le pays où tous les capitaux affluaient. C'était le pays où d'abord et ensuite par la nature, les montagnes et la verdure, et cette ouverture, cet esprit d'ouverture. Les Libanais, à l'instar des Suisses, n'étaient pas enfermés. Ils avaient tendance à accueillir les gens, à s'ouvrir. Et dans cet océan arabe qui était, non pas menaçant, mais qui était, à certaines périodes de notre histoire, étouffant culturellement. Avec une tendance à dire oui, c'est quoi ce pays qui est composé de chrétiens, de musulmans, puis des autres minorités, les druzes. Ce n'était pas aux yeux des Arabes purs et durs, c'était quelque chose qui était artificiel. C'est peut-être pour ça, à cause de la pluralité, à cause de la vie en commun des minorités qui a créé cette ressemblance. Mais je pense que c'est surtout en raison du système bancaire qu'on dit la Suisse de l'Orient, c'est surtout ça, la nature bien sûr, et le système bancaire.
Elias Masbounji, vous avez commencé dans le journalisme en 1965. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous avez vécu en tant que jeune journaliste, les souvenirs les plus marquants de vos débuts ?
Oui, je voudrais dire tout d'abord que le journalisme ou la presse, ou les médias de cette partie du monde ont connu trois périodes principales. La période au Liban, je parle du Liban, qui a lui-même exporté les journaux et les médias vers le monde arabe, surtout les pays du Golfe, à travers la Syrie. L'âge d'or était entre l'indépendance 1943 et 1958, où il y a eu ce qu'on appelle l'insurrection. Première réaction, premier choc entre musulmans et chrétiens par rapport à la guerre dite civile de 1976. C'était un jeu d'enfant, mais c'était quand même l'insurrection. Il y a eu des armes aux mains des jeunes et la ville, le pays était coupé en deux, etc. Mais la presse était vraiment dans sa meilleure forme, malgré les divisions. Ce n'est qu'au début de la guerre civile que le niveau de la presse qualitativement a baissé. Pourquoi ? Parce que les pays voisins et certains pays du Golfe se faisaient la guerre à travers la presse libanaise. Puisque le Liban était le seul pays où il y avait une presse libre, les Syriens et les Irakiens, quand le parti Baas s'est scindé en deux, ils se faisaient la guerre au Liban. L'Égypte de Nasser contre l'Arabie du roi Faisal, la Libye contre l'Égypte, etc. Tout se faisait au Liban. Et ça donnait paradoxalement une vivacité, une sorte d'énergie nouvelle aux journalistes qui avaient recours à leur ingéniosité. Et tout ça dans un esprit de concorde, c'est-à-dire d'entente entre les journalistes eux-mêmes. Ils savaient que l'un était le porte-parole de l'éditeur et journaliste, porte-parole de la Syrie, porte-parole de l'Irak, etc. Mais ils étaient finalement, ça faisait l'affaire de tout le monde. Et c'était l'âge d'or de la presse libanaise. Bien entendu, être pro-saoudien ou pro-égyptien, c'était profiter du pactole, l'Égypte d'une part et les pétrodollars ensuite. C'était l'âge d'or de la presse.
Et le journal pour lequel vous travailliez à l'époque, le soir, c'était un petit journal ?
C'était un petit journal. Ce que je viens de dire concernait surtout la presse de langue arabe. La presse de langue française, c'était un autre concept. La presse de langue française était destinée aux Libanais francophones qui étaient nombreux, ceux qui parlaient chez eux le français, ceux qui avaient appris la langue française au détriment de la langue arabe et qui préféraient lire les nouvelles de leur pays en langue française, comme à certaines périodes dans le Maghreb, vous aviez des tirages de journaux en langue française supérieurs au tirage des journaux arabes. C'était un peu la fenêtre du Liban vers l'extérieur. En même temps que les lecteurs de langue française, ça permettait aux élites, aux corps diplomatiques, aux représentants des grandes sociétés qui étaient nombreux à l'époque, de lire en français ce qui se passait dans ce pays. Donc nous avions un rôle de... Et il fallait donner toutes les informations sur le Liban en langue française, plus toutes les informations du monde arabe en langue française, et un plus, c'est-à-dire une exclusivité. C'était ça la grande leçon de Georges Nakache, un grand maître fondateur du journal L'Orient. Il disait toujours à ses journalistes, si un jour vous ne pouvez pas couvrir tout le monde, le Liban et tout le monde arabe, plus une exclusivité, vous n'avez plus de raison d'être. Et c'est dans cette ligne-là que L'Orient, qui était le grand journal, et nous, le soir, qui pressions l'après-midi, le combat de David et Goliath. On profitait du décalage horaire. La nuit, on profitait du décalage horaire pour les nouvelles économiques qui venaient de l'étranger, etc. Et c'était ça, le panorama. Il y avait plusieurs hebdomadaires en langue française. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus tellement. Et c'était une période très intéressante, enrichissante également.
L'invité de Parcours est le journaliste Elias Masbounji. On se retrouve dans quelques instants. Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours en compagnie du journaliste Elias Masbounji. Tout à l'heure, vous nous avez dressé un panorama de la presse en langue arabe et en langue française au Liban dans les années 50-60. Sur un plan plus personnel, est-ce que vous vous rappelez certains de vos reportages, certaines de vos interviews, des moments qui vous ont particulièrement marqué à cette époque?
Bien sûr. Il y a des événements que vous gardez en mémoire. Le printemps de Prague, 1968, j'ai débarqué à Prague par le premier avion civil après l'invasion russe. Et le gouvernement tchécoslovaque m'avait invité en me disant « On ne peut pas vous accueillir à l'aéroport parce qu'il y a des Russes à l'aéroport, démerdez-vous. » Alors je me suis présenté comme décorateur au stand libanais de la foire de Brno. Et quand le Russe a demandé à son collègue « Est-ce que cette foire aura lieu, pourquoi il vient, peut-être que la foire n'aura pas lieu ?» J'ai dit « Moi, je viens faire votre travail, tout comme vous faites votre travail ici. Si la foire n'a pas lieu, je repars. » Bref, c'était intéressant parce que j'ai rencontré les opposants, les gens de Dubček, si ça vous dit quelque chose, Dubček. Je les ai rencontrés dans les sous-sols et ce sont les étudiants syriens qui me les ont présentés parce qu'ils étaient très, très forts là-bas et bien introduits. J'ai fait une série de 7 articles, pas au jour le jour, mais 7 articles à mon retour, étant donné que les moyens de communication n'étaient pas faciles. Je ne voulais pas attirer l'attention pendant que j'étais là-bas. Et une anecdote, que parmi les 7 articles, j'avais fait un article sur les filles de Prague, les filles qui s'organisaient à fréquenter les hôtels par groupe de 2 avec une organisation impeccable. Et la déception était que la plupart des gens qui avaient lu mon article me disaient « Ah, c'est formidable vos articles, surtout l'article sur les filles de Prague ». Alors c'était un peu la déception. Mais ça, je vous donne un exemple. J'ai couvert la première visite d'un président américain dans un pays communiste. C'était Nixon qui avait rencontré Ceausescu à Bucarest. Il y avait 900 journalistes à l'époque. C'était en fait le début, le premier contact indirect avec la Chine, puisque c'est le président roumain qui a arrangé, qui a organisé la première rencontre sino-américaine, si vous voulez. C'était aussi très, très intéressant parce que c'était la première fois que je travaillais avec 900 journalistes de tous les pays et c'était une expérience extraordinaire. La période de la guerre a été la plus fertile en événements. Vous comprenez bien que pendant la guerre, d'abord l'ambiance...
J'allais justement vous interroger à ce sujet, Elias Masbounji. En tant que journaliste, est-ce qu'on voit venir la guerre autrement que les simples citoyens?
Certainement, parce que nous savions, par exemple, qu'il y avait des préparatifs, que les jeunes s'entraînaient au maniement des armes. Et on dénonçait ça dans nos écrits. mais la plupart des gens considéraient que c'était pas aussi grave et que ça n'arriverait jamais. Et on peut dire que les Libanais ont été surpris par la guerre, mais pas les journalistes. Ils voyaient venir. On voyait venir la guerre à cause des préparatifs.
Tout était en place pour un combat dur et très long.
Absolument. D'abord, les Palestiniens qui se sont armés avant d'avoir cet accord du Caire, de triste mémoire, qui a donné au camp palestinien un statut d'extraterritorialité. Ils étaient déjà armés jusqu'aux dents. Et armés, pourquoi ? Dans un pays comme le Liban, armés installés dans le... Ce n'était pas... pour autre chose que d'utiliser ces armes-là.
Ilyas Mazbounji, comment on reste journaliste quand on parle de son propre pays qui est en train de se déchirer ?
Alors là, nous entrons dans la période qui a été pour moi et pour beaucoup de journalistes très enrichissante. Travailler dans des conditions très difficiles, sans eau, sans électricité, avec les bombes qu'on entendait et la peur au ventre, les enlèvements, les assassinats, etc. Plus la difficulté pour nous, nous étions dans du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire la plupart de nous, chrétiens, nous étions dans le secteur qu'on disait palestino-progressiste, le secteur musulman de Beyrouth qui était divisé en deux. Ça rendait les choses difficiles, mais nous étions, là je parle de L'Orient le jour, le soir a fermé à cette période-là. L'Orient le jour, dans le même immeuble qu'à Nahar, nous avons pris nos précautions pour être un peu le journal de tout le monde. Et c'est très amusant parce qu'à L'Orient le jour, quand on était accusé par les deux parties d'être mutuellement l'agent des milices chrétiennes. Et le lendemain, les milices chrétiennes nous accusaient d'être des agents des Palestiniens. On se disait, très bien, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Mais le travail au quotidien était dur. Nous avons perdu beaucoup de camarades, d'ailleurs. Mais quand on survit à ces choses-là, on a une immunité professionnelle et morale et un courage que les journalistes qui vivent dans des pays où ils travaillent normalement, ils vivent normalement, n'ont pas. On sort beaucoup plus aguerri, beaucoup plus fort, et aussi bien professionnellement que moralement.
Et chaque article publié, j'imagine, l'était avec une responsabilité particulière.
Oui, on faisait un travail d'orfèvre parce qu'après avoir écrit l'information, on la relisait, on faisait relire aux collègues à côté, et parce qu'il suffisait d'un mot parfois pour attirer les foudres de tel ou tel parti, de tel ou tel leader, et en l'absence d'autorité, on pouvait n'importe qui pouvait se faire justice lui-même. Et ce qui était difficile, c'était de vivre dans un pays de non-droit. Il n'y a pas d'autorité, pas de droit. Donc, et pour un journaliste, c'est compliqué. Les miliciens, ils avaient leur fusil. Nous, on avait rien. On avait nos relations, nos contacts qui nous ont permis de passer ces moments difficiles.
Vous êtes resté au Liban pendant toute la durée de la guerre civile ?
Oui, une bonne partie, de 1976 à 1983. C'était les années les plus difficiles.
Vous avez vécu notamment l'invasion de Beyrouth par les Israéliens ?
Oui, et aussi, surtout le siège de Beyrouth Ouest, où nous étions, donc la Beyrouth contrôlé par les Palestiniens et les milices musulmanes et progressistes, qu'on appelait, entre guillemets, moi je mets les guillemets, progressistes. Quand Sharon a encerclé Beyrouth avec les Palestiniens les plus dangereux, et à tout moment, ils pouvaient démolir la ville sur nos têtes, c'était les périodes les plus difficiles, et là, on avait vraiment peur. Mais heureusement que il n'a pas pris cette option. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles. Probablement que, à l'origine, son plan était d'occuper une bande frontalière dans le sud Et c'est lui qui a foncé jusqu'à Beyrouth, encerclé la Beyrouth. Il a mis son gouvernement devant le fait accompli. Mais c'était quand même une période très, très difficile.
Quand on a connu la guerre civile, est-ce qu'on change d'idée sur l'homme, sur l'humanité, Elias Mazboungi?
Bien sûr, la vanité de l'être, la vanité de, d'un tas de choses. Quand on voit un collègue être abattu par un sniper qui ne savait même pas qui c'était, c'est vraiment, ça donne à réfléchir. Sur le plus difficile, c'était les enlèvements. Les enlèvements, c'était quoi? On vous arrêtait. Si vous étiez chrétien en zone musulmane, c'était ou la prise en otage pour faire un échange. Et malheureusement, parfois, c'était très chaud quand il y avait des kidnappings et qu'on tuait les gens d'un côté, les autres se vengeaient. C'était très, très dur, très difficile. Et là, quand on s'en sort, on dit, mais on a quelle valeur on avait à ce moment-là? Aucune valeur. Nous, c'est-à-dire en tant que personne, on n'avait pas de valeur.
Cette guerre civile vous a éloigné de certains amis d'enfance à l'époque?
Certainement, certainement. Tous les miliciens, qu'ils soient de chrétiens ou musulmans, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi et comment, du jour au lendemain, on peut prendre les armes. Bien sûr, il y avait de la sincérité des deux côtés. Les jeunes chrétiens, il y avait des élites parmi eux qui ont été convaincus par le fait que les Palestiniens voulaient faire du Liban une patrie de rechange. Ils voulaient envahir le Liban, ils se sont défendus, l'armée était divisée, ils ont pris les armes pour défendre leur pays. Et de l'autre côté, les musulmans qui ont pris le parti des Palestiniens, ils faisaient bloc avec les Palestiniens, sous l'argument que, oui, les chrétiens, il fallait en finir une fois pour toutes, et ce sont les alliés naturels d'Israël, parce qu'il y a Israël aussi qui a mis la main dans cette histoire plus tard. Donc c'était je peux comprendre, mais d'autre part, avec le recul qui s'impose, d'ailleurs eux-mêmes, certains miliciens qui ont pris les armes, je parle des chrétiens, les autres je ne connais pas beaucoup, quand ils ont vu les scènes de pillage, parce que c'était une guerre sale, une guerre où on pillait les magasins sous prétexte d'avancer d'une rue, surtout dans le centre-ville. Et les élites, les gens viennent, quand ils ont vu qu'il y avait du pillage, ils se sont retirés. Et ceux qui n'ont pas eu de chance se sont morts, les autres se sont partis. Donc, on pouvait comprendre au début, mais après, quand les miliciens eux-mêmes laissent leurs armes et se retire, c'est qu'il y a quelque chose ils ont été trompés.
Elias Mazboungi, avez-vous été tenté de quitter le Liban, de cesser d'être journaliste durant cette période?
Non, pas à cause de la situation, mais parce qu'en 1983, avec des journalistes du journal Al-Nahar, qui était un peu la maison, le sister compagnie de l'Orient le Jour, nous avons lancé à Londres un magazine en langue arabe. Et l'aventure m'a tenté. Et ça a duré 4 ans, malheureusement. Et puis, je n'ai pas pu m'entendre avec ses collègues. J'ai changé d'employeur. J'ai travaillé pour un journal quotidien. Et quand on m'a donné le choix entre Londres et Paris, je suis venu à Paris. Mais pendant toute cette période, je n'ai pas cessé de rester en contact avec l'Orient le Jour pour leur envoyer des articles sporadiquement. Et quand je me suis installé à Paris, je me suis considéré comme le correspondant du journal. Et ça fait, là, va faire bientôt 30 ans que j'envoie régulièrement des papiers sur tout ce qui se passe en France, mais dans l'optique de tout ce qui peut intéresser les Libanais et vice-versa.
Vous avez rencontré plusieurs dirigeants arabes au cours de votre carrière de journaliste. Certains vous ont marqué plus que d'autres?
J'en ai rencontré quelques-uns, bien sûr. Mais je peux parler de rencontres directes avec Saddam Hussein, au fait de sa gloire, Hafez al-Assad. Et même, j'étais à Bagdad un jour et les deux bases étaient à couteau tiré, les bases syriens et irakiens étaient à couteau tiré. Vous savez qu'ils ont, ils ont fait entre eux beaucoup plus de victimes que leurs adversaires ou leurs ennemis communs. Et un jour, j'étais pour un travail et le responsable du ministère de l'Information me dit « Quand est-ce que tu pars ?» Je dis « Mercredi ». Il me dit « Reste jusqu'à vendredi ». J'ai pensé que s'il y avait quelque chose. On nous amène un jour au siège du Parti Basse et on voit face à face Saddam Hussein et Hafez al-Assad. C'était un choc. Ils avaient décidé de se rencontrer, de discuter, alors que leur service de renseignement était encore en train de s'entretuer. Ils n'avaient pas eu le temps d'informer les barbouzes qu'ils allaient se rencontrer. C'était un choc et une expérience intéressante, puisque on a couvert ce scoop. On n'était pas beaucoup, on était deux journalistes libanais et les journalistes locaux. Donc, on peut dire que j'ai rencontré également d'autres présidents, mais toujours dans les occasions, le roi Hassan II du Maroc a pris les tentatives d'attentat contre lui, deux tentatives. Dans ce contexte-là, je dirais qu'il n'est moins important de rencontrer personnellement un chef d'État que de s'intéresser à lui, de suivre tout ce qu'il fait, et d'être considéré par lui comme un bon journaliste. C'était un peu ça.
Et qu'est-ce qu'un bon journaliste, selon
c'est
vous,
Elias Masbouji? Il faudra une autre émission pour ça. Non, mais on peut dire, pour résumer les choses, un témoin objectif, sérieux, bien documenté, et qui ne se laisse pas tenter par le scoop. Et dans les bonnes écoles de journalisme, où qu'elles soient, on vous apprend deux choses importantes. À savoir, vous recevez une information, vous devez la vérifier par au moins deux sources indépendantes et, si possible, une personne concernée. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde autour de soi, ce n'est plus du tout ça.
Notamment avec l'émergence des réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Moi, je dis toujours comme ça, comme une boutade, ça amènera la fin du monde, les réseaux sociaux. Oui, quand on pense au nombre de ce qu'on appelle des fake news, c'est vraiment très dangereux, parce que, enfin, plus que dangereux, ça peut être fatal. Quand on parle je donne un exemple, pas politique du tout, la faillite d'une banque. Une banque qui fait faillite, les gens se précipitent et une demi-heure après, ça paraît comme il y a un démenti, mais le mal est fait. Je vous donne un exemple précis. Quand les événements de Syrie ont commencé, il y a un quart de pèlerins chiites qui venaient de Karbala, le saint chiite, qui rentrait au Liban par la route. Et deux chaînes importantes de télévision ont annoncé qu'ils ont été arrêtés par des islamistes, donc c'était un peu le début de Daesh, qui ne s'appelait pas Daesh encore, et qu'ils ont été arrêtés et tués sur le coup. Effervescence que vous imaginez entre chiites et sunnites au Liban. Une demi-heure après, démenti. Non, non, ce n'est pas vrai, etc. Mais pendant cette demi-heure, il aurait pu y avoir 200-300 morts au Liban, parce que dans les quartiers où une rue d'un côté est sunnite, les habitants d'un côté sont sunnites, de l'autre côté est souvent mélangé. Et c'était vraiment... C'est un exemple que je donne pour dire à quel point ça peut être... Ne pas vérifier. Ça, trois fois, il faut vérifier auprès de deux personnes. Parce que on veut passer avant, on veut faire le scoop, ça peut être très dangereux. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'exemples que je peux vous donner tous les jours sur les réseaux sociaux et aussi, malheureusement, sur des sites d'information qui ont la prétention d'être un peu le journal électronique.
Dernière question, Elias Masbounji, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
On souhaitait une semi-retraite tranquille pour que je puisse écrire deux livres. un livre justement qui va relater sous forme de nouvelles la petite histoire de la guerre libanaise. Et des histoires que j'ai vécues personnellement, pas des... on m'a raconté ceci et cela, non, des histoires que j'ai vécues personnellement derrière mon bureau, au journal. Et j'ai pris du recul parce que les héros, entre guillemets, de ces histoires-là auraient été dangereux. Pour moi, j'ai attendu un peu. Et puis, une autre histoire, un autre livre, justement, la saga de notre famille, les conditions dans lesquelles ils sont partis de Turquie. Mais dans le deuxième livre a besoin de beaucoup de temps pour une documentation, parce qu'il faut être, à travers cette saga, expliquer exactement pourquoi les chrétiens de Turquie ont été chassés.
Merci Elias Masbounji d'avoir été l'invité de Parcours.
C'était Parcours sur Radio Orient.